France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les bourses qui dévissent de Hong Kong à Paris, conséquence de la guerre commerciale déclenchée par Trump. Pas de lundi noir pour l'instant, mais quelles conséquences concrètes pour les entreprises cotées et pour les consommateurs, sachant que les cours du pétrole, eux aussi, baissent. Notre invité dans un instant pour les réponses. Et nous verrons que le Vietnam, l'usine à basket du monde, a commencé à négocier avec les États-Unis. Autre grand titre, Gaza sous les bombes. Emmanuel Macron est en Égypte. Il dénonce ce matin la reprise des bombardements israéliens.
Nous condamnons la reprise des frappes israéliennes à Gaza, qui constitue un recul dramatique pour la population civile, les otages, leurs familles et l'ensemble de la région. Nous appelons à un retour immédiat au cessez-le-feu, à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza.
Nous verrons que les Français soutiennent le plan arabe de cessez-le-feu. Nous serons au Caire. À suivre encore, le RN qui positive après son rassemblement en demi-teinte hier à Paris. Ce dealer du Périgord qui avait loué un gîte pour abriter son trafic. Et le plan d'action du gouvernement pour la protection de l'enfance à la dérive dans notre pays. À partir de 13h30, c'est un temps à profiter des terrasses. Les terrasses éphémères ont commencé à être installées un peu partout en France, mais comment concilier les intérêts des restaurateurs, des communes et des riverains? Ils sont parfois contradictoires. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h45, notre feuilleton dans la vie d'un cabaret.
Ça fait quand même 26 ans qu'on fait ce métier avec mon associé, 15 ans d'itinérance, donc à arpenter la France et un petit peu l'étranger. Et puis il y a 10 ans, on a décidé de se poser donc à Renaison et de créer l'élégance pour pouvoir vraiment faire un spectacle aux dimensions qu'on avait envie.
Nous passons cette semaine dans la Loire. 13h50, c'est la France, les mots des bébés selon nos régions en cette journée mondiale de la santé consacrée aux nouveau-nés. Ce sera avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le saxophoniste de jazz Pierrick Pédron avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Avant le grand plongeon des bourses mondiales, arrêtons-nous sur une double, voire une triple ascension, celle de la butte Montmartre à Paris par les coureurs du Tour de France. Ce sera lors de la dernière étape du prochain tour, le dimanche 27 juillet. Le journal Le Parisien aujourd'hui en France l'a révélé hier et Radio France est en mesure de le confirmer aujourd'hui. Passage par les rues de Montmartre avant une arrivée sur les Champs-Élysées pour le peloton. Alors sur place, on se réjouit, personne n'a oublié les images de la foule. Le monstre acclamant les cyclistes lors de la dernière course en ligne des Jeux Olympiques l'été dernier. William Delesseux est allé prendre la température des pavés.
Tous les jours, Robert, 88 ans, gravit avec son vélo bleu cette rue Le Pic, malgré la côte. Les coureurs n'ont rien à craindre.
Ce n'est pas particulièrement difficile. Les pavés sont... Ils ont l'habitude, ils font du Paris-Roubaix, des trucs... C'est pas plus compliqué que ça, c'est même plus facile ici. D'ailleurs, quand ils sont passés pour les JO, je suis monté là-haut, tranquillement.
La ferveur de l'été dernier, tout le quartier s'en souvient encore. Stéphane et Marilyn ont envie de retrouver cette atmosphère dans quelques mois.
Il y avait une ambiance très amicale de quartier, même avec les quelques touristes qui étaient là, qui étaient ravis.
Ça sera l'étape of the Tour de France, in Montmartre.
Sir, thank you.
Il y a l'image, la foule.
C'est magnifique à voir. Il y a de l'émotion, c'est beau, mais pas pour les commerçants. Quoi.
Asia Lanciotti de la boulangerie Les Petits Mitrons.
C'était une journée pendant les JO, une catastrophe, parce qu'on n'a pas travaillé. Quoi. Et du coup, on aurait dû fermer ce jour-là.
Le parcours des cyclistes du Tour cet été sera un peu différent, dévié d'une cinquantaine de mètres au bas de la rue Le Pic. La mairie de Paris mène en ce moment des travaux pour piétonniser cet axe. Avec une pente moyenne de plus de 6%, l'ascension sera tout aussi difficile pour les coureurs.
William Delesseux dans les rues de Montmartre, le Tour de France s'élancera de Lille le 5 juillet. Et ce dimanche, ce sont les pavés non pas de Montmartre mais de Paris-Roubaix qui seront proposés aux coureurs. Le président russe Vladimir Poutine, lui, a félicité ce matin un hockeyeur, le russe Alex Ovechkin, qui a battu hier soir le record du nombre de buts inscrits par un joueur du championnat nord-américain de hockey sur glace en saison régulière, près de 900 buts. Ovechkin est un inconditionnel du président russe, qui nous amène à la situation internationale et à cette décision historique prise par Donald Trump la semaine dernière de rompre avec le libre-échange et d'augmenter très fortement à partir de mercredi les droits de douane. Décision qui n'en finit pas de plomber l'économie mondiale. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour, bonjour à tous.
De l'Asie à l'Europe, les bourses dévissent depuis ce matin et des records à la baisse sont battus.
Oui, on peut parler de grosses turbulences. Hong Kong a terminé à moins 10% après avoir frôlé les moins 13% du jamais vu depuis 16 ans. Francfort a dégringolé à moins de 10% et depuis se stabilise autour de 6%. Paris, Londres, Milan et même la bourse suisse ont perdu 6% à l'ouverture après les fortes baisses déjà de ces dernières semaines, de ces derniers jours. Les valeurs du luxe vacillent, même si à la mi-journée, Jérôme, hein, tout ça remonte tout de même un tout petit peu. On est grosso modo sur le même niveau de choc boursier que celui du début de la pandémie du Covid, avec un effet surprise, beaucoup d'incertitudes et l'anticipation d'un coup de frein sur la croissance. Mais on est bien en deçà du choc de 2008, celui de la crise des subprimes, bien en deçà aussi du jeudi noir de 1929. Les investisseurs, ou plutôt les fonds d'investissement, vendent les titres qu'ils ont en portefeuille, quasiment tous secteurs confondus. Mais pour le moment, d'autres investisseurs prennent leur place, ce qui veut dire que pour l'instant, le financement ou le refinancement de pans entiers de l'économie n'est absolument pas en péril.
Conséquence aussi pour les cours du pétrole au plus bas.
Oui, moins 5% encore pour le baril de Brent aujourd'hui. Le baril américain est lui descendu sous la barre des 60 dollars pour la première fois depuis avril 2021. Là aussi, c'est l'anticipation d'un ralentissement économique mondial qui génère cet effet, puisque moins de croissance égale moins de consommation de pétrole. Des marchés financiers en plein séisme donc, alors que les économistes ne savent pas encore chiffrer précisément l'ampleur du choc à venir, choc réel. Pour certains, il sera modeste. Pour d'autres, le discours est devenu assez alarmiste ces derniers jours. Au plus haut niveau de l'État, du gouvernement notamment, on commence à anticiper une baisse de 0,5 point de PIB en France dès cette année.
C'était François Bayrou dans la presse ce samedi.
Tout
merci Claire Chaudière. Le plongeon des bourses est un signal d'alarme face aux droits de douane américains. Voilà ce que dit ce matin le gouvernement allemand. On va voir ce qu'en pense notre invité. Bonjour Christopher Dembick.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Vous connaissez parfaitement la marche des bourses. Merci d'être avec nous. Christopher Dembick, on sait que le propre des marchés, c'est de varier. Est-ce que cette fois, le choc vous semble plus profond ?
On est sur un choc qui est un peu plus brutal que ce qu'on a connu, puisqu'on a effectivement des amplitudes de baisse qui nous rappellent typiquement la période de la Covid ou encore la crise financière de 2007-2008. Mais le point qui est important de mentionner, c'est que de telles fortes amplitudes baissières, on en a assez régulièrement. C'est ce qu'on appelle en bourse une correction. Et des corrections boursières, ça intervient quasiment tous les ans.
Et là, on est dans une correction boursière ?
On est dans une correction boursière, on n'est pas dans un krach financier, on est encore moins dans une crise financière, donc il convient de relativiser, mais effectivement c'est violent, c'est typiquement violent et c'est complètement normal ce type de période. Ce qui va être important de surveiller dans les prochains jours, c'est de savoir si de telles baisses, elles continuent, normalement a priori pas, et c'est le typique d'une correction, mais si elles continuent bien sûr et s'il y a des effets d'entraînement sur l'économie réelle, là on serait dans un autre scénario. Encore une fois, c'est pas du tout le scénario de base, on reste sur quelque chose qui est cantonné au marché financier, où il y a beaucoup de panique, un peu d'hystérie à cause des tarifs douaniers qui ont été présentés par la Maison Blanche.
Donald Trump dit grosso modo c'est un mauvais moment à passer. Est-ce que pour l'instant, les marchés, les bourses sont un peu sur le même type de discours ?
Alors, ils n'ont pas la même analyse parce que finalement, ils ont été un peu plus surpris que par les annonces de l'administration Trump. En revanche, il est évident que du côté de la Maison-Blanche, et c'est même vraiment, ils ont écrit quelques papiers, certains conseillers de la Maison-Blanche l'ont mis en avant plusieurs mois de cela. On sait très bien que ça va être compliqué en bourse à court terme. Ils s'attendent à ce qu'on appelle à ce qu'il y ait beaucoup de volatilité parce qu'il y a toutes les annonces choc de l'administration Trump. En revanche, effectivement, a priori, ça n'a pas vocation à perdurer. Et d'ailleurs, il y a des signaux qui sont positifs puisque fondamentalement, on a déjà 50 pays, même si ce n'est pas les grandes économies, qui ont décidé d'entamer des négociations sur les taxes douanières avec les États-Unis.
À ce stade, Christopher Dembick, est-ce que cela a des conséquences pour les Français qui ne sont pas actionnaires, qui n'ont pas d'argent exposé en bourse ?
La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que la seule conséquence qu'il y aura pour les épargnants français, pour le consommateur français, c'est que la chute des bourses a entraîné la chute du baril de pétrole. Et cette chute du baril de pétrole, elle va se voir au niveau des prix à la pompe d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc plutôt dans l'immédiat, pour l'intégralité de la population française, en tout cas pour les conducteurs, c'est d'avoir plutôt une baisse des prix à la pompe. C'est ça la première bonne nouvelle. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en revanche sur la santé de l'économie.
Et pour les entreprises françaises ?
Pour les entreprises françaises, vous avez celles qui sont les grandes entreprises ou les sociétés qui sont visées par les tarifs douaniers. Alors elles doivent trouver en fait des mesures un peu de contournement, des mesures, une sorte de plan hors sec pour faire face à cette nouvelle donne. Et vous avez toutes les autres qui ne sont éventuellement pas concernées parce qu'elles exportent par exemple que aux États-Unis, qui a priori dans l'immédiat sont quand même relativement immunisées. Elles n'ont pas de difficulté à se refinancer. Ça ne changera rien du niveau de leur perspective d'investissement. Donc il convient d'être très prudent sur les discours catastrophes qu'on entend parfois.
Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, entretien enregistré il y a quelques minutes. Alors les Chinois ont déjà répliqué en annonçant leur propre taxe. Les Européens, eux, se préparent à le faire. Réunion des ministres du commerce extérieur des 27 aujourd'hui à Luxembourg. La France et l'Allemagne sont sur une ligne dure. La réponse peut être extrêmement agressive, dit le ministre français du commerce extérieur. Et puis il y a les pays qui ont déjà décidé de négocier avec les Américains, à l'image du Vietnam, le pays d'Asie du Sud-Est, premier producteur par exemple de baskets et de chaussures de sport. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Le Vietnam qui va voir ses droits de douane augmenter de 46% après-demain.
Et ceux qui doivent trembler derrière les dirigeants vietnamiens, ce sont les patrons de Nike, d'Adidas, de Samsung et même d'Apple. Le Vietnam a un taux de croissance insolent de presque 7%. C'est devenu le plan B de l'économie régionale, la plaque tournante pour les ventes en direction des États-Unis, quand la Chine a voulu d'abord diversifier son économie, puis quand les tensions sont montées crescendo avec l'Amérique, notamment lors du premier mandat de Donald Trump. C'est un pays en pointe pour le textile, les baskets, l'électronique. Nike produit 50% de ses chaussures sur place, Adidas presque 40%. Les titres des deux géants ont donc dévissé à la bourse la semaine dernière avec la chute du couperet sur les droits de douane. Parce que dans sa succession story, le Vietnam est devenu très fortement dépendant aux États-Unis. Sa richesse repose sur les exportations. Un tiers de ses ventes se fait chez l'oncle Sam avec 123 milliards de dollars d'excédent commercial. Le secrétaire général du Parti communiste a décidé très vite de négocier. Il a parlé au président américain. Il lui a envoyé aussi un courrier pour demander un délai d'au moins 45 jours. Il semble vouloir jouer deux cartes principales. D'abord, acheter du gaz liquéfié aux États-Unis. Ensuite, travailler avec Elon Musk pour implanter Starlink dans le pays.
Car le Vietnam est toujours un pays communiste. Merci Étienne Monin. Parmi les pays également visés par la hausse de ses droits de douane, Israël. Le sujet est donc au menu de la rencontre cet après-midi à la Maison-Blanche entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Pendant ce temps, Emmanuel Macron lui est donc en Égypte, pays frontalier de la bande de Gaza, pays impuissant face à la reprise des bombardements israéliens sur l'enclave depuis plus de deux semaines. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous suivez ce déplacement pour Inter. Louise, le président français a été reçu ce matin par son homologue égyptien, le maréchal Al-Sissi, puis rejoint par le roi Abdallah II de Jordanie.
Oui, les trois dirigeants ont entamé leur discussion il y a quelques minutes derrière les hauts murs néo-mauresques du palais présidentiel égyptien Itihadiya, où Abdel Fattah al-Sissi a accueilli ce matin Emmanuel Macron avec la pompe qui sied à une visite d'État. Coup de canon, revue des troupes et chaleureuse accolade. Au cœur des discussions donc, Gaza, où plus rien n'entre depuis plus d'un mois, des points de passage doivent impérativement rouvrir. Emmanuel Macron le redira demain à Al Arish, à 50 km de l'enclave, sur ce port égyptien qui sert de base arrière pour l'aide humanitaire, où il se rendra avec le président égyptien. Emmanuel Macron qui soutient par ailleurs le plan de reconstruction de Gaza porté par la Ligue arabe. Ce plan prévoit le maintien des Gazaouis sur leur terre.
Nous nous opposons fermement au déplacement de population et à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Je réitère également mon plein soutien au plan de reconstruction pour Gaza endossé par la Ligue arabe le 4 mars dernier, qui offre une voie réaliste à la reconstruction de Gaza et qui doit aussi ouvrir la voie à une nouvelle gouvernance palestinienne dans l'enclave, dirigée par l'autorité palestinienne.
Le plan de reconstruction doit prévoir le désarmement du Hamas, dit aussi Emmanuel Macron, condition pour convaincre Washington qu'il y a là une solution concrète, alors qu'Israël n'a pas de plan pour le jour d'après. Convaincre Washington, vaste programme, alors que Donald Trump ne démord pas de son projet de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, promesse d'un paradis vidé de ses 2 millions de 200 000 habitants.
Louise Baudet en Égypte avec les moyens techniques de Marc Garvenès, le président français qui s'est également exprimé sur la guerre en Ukraine, demandant à la Russie d'accepter, je cite, le cessez-le-feu sans condition. Le cessez-le-feu qui a été proposé par le président Donald Trump. Je reviens à la reprise des bombardements sur Gaza par Israël il y a un peu plus de deux semaines. Parmi les victimes, il y a 10 jours, ont été retrouvés les corps de 14 secouristes palestiniens et d'un employé de l'ONU dans une fosse commune à Gaza. Jeudi, l'armée israélienne avait annoncé l'ouverture d'une enquête. Elle affirmait que ces soldats avaient tiré sur des terroristes et, je cite, des véhicules suspects qui avançaient tout feu éteint. Mais ce week-end, l'organisation palestinienne du Croissant Rouge a dévoilé une vidéo qui met à mal cette version et depuis, Israël a fourni de nouvelles explications. Amira Souilem est à Jérusalem pour Inter.
Les accusations sont graves et l'armée israélienne tente de s'expliquer. Oui, elle est bien à l'origine des tirs ayant conduit à la mort des secouristes palestiniens. Mais l'armée assure, sans donner plus d'éléments à ce stade, que 6 d'entre eux étaient liés au Hamas. Une défense qui intervient alors que le Croissant Rouge palestinien multiplie les révélations ces derniers jours et promet de continuer à le faire. Les corps des secouristes ont été criblés de balles et l'un d'entre eux a même été retrouvé mains et pieds liés, assure la porte-parole de l'organisation avec laquelle nous avons pu nous entretenir. Interpellée, l'armée israélienne avait dans un premier temps mis en avant la conduite jugée suspecte, tout feu éteint, des ambulances. Une thèse qui est venue fragiliser la vidéo rendue publique ce week-end par le Croissant Rouge. On y voit des véhicules de secours clairement identifiables, gyrophares et feux allumés, pris sous des feux nourris. L'armée israélienne admet une erreur et promet d'enquêter. Quant à la fosse commune, elle précise déjà l'avoir creusée pour des raisons dites sanitaires, afin d'éviter, je cite, que les corps ne soient dévorés par des chiens errants.
Précision signée Amira Souilem.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Près d'un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance sur deux, un sur deux aurait été victime de violences sexuelles. L'étude publiée la semaine dernière par l'Union pour l'enfance fait froid dans le dos. Elle témoigne des échecs dans notre pays de la politique de protection de l'enfance. La ministre Catherine Vautrin propose donc une réponse aujourd'hui. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Elle a dévoilé ce matin un plan d'action avec notamment une réforme du métier d'assistant familial. Vous nous rappelez de quoi il s'agit et ce qui va changer ?
Eh bien, les assistants familiaux, ils sont plus connus sous le nom de familles d'accueil. C'est elles qui prennent le relais quand un juge décide de placer un enfant qui n'est plus en sécurité avec ses propres parents. Et bien depuis plusieurs années, il y a de moins en moins d'assistants familiaux. Le métier souffre d'un manque d'attractivité. Or, cette solution est souvent plus sécurisante pour les enfants placés. La ministre propose donc de moderniser cette fonction en autorisant le cumul d'emplois, c'est-à-dire être assistant familial tout en exerçant une activité professionnelle en parallèle, par exemple une fois que l'enfant est déposé à l'école. L'objectif derrière tout ça, recruter et augmenter les capacités d'accueil. Aujourd'hui, des milliers d'enfants ne sont pas placés faute de solution. En revanche, la ministre n'annonce pas de réforme structurelle ni de moyens financiers supplémentaires, au grand regret de Liesse Loufoque, militant pour les droits de l'enfant.
Malheureusement, cette stratégie telle qu'annoncée par Catherine Vautrin s'évalue également à l'aune de toutes ses omissions. On n'a absolument pas évoqué la question de la violence institutionnelle qui est dénoncée depuis très longtemps. Il n'y a pas non plus d'annonce sur la formation des professionnels pour prévenir justement les violences en institution.
Et concernant les violences, un système de vérification des antécédents judiciaires pour les professionnels au contact d'enfants devrait être généralisé d'ici la fin de l'année, promet le gouvernement.
Alice Cachaner, le trafic de drogue, les chiffres du ministère de l'Intérieur nous le disent, se déploie de plus en plus dans des villes moyennes. Ici, nous sommes à Sarlat, dans le Périgord noir, un peu plus de 8000 habitants, où un dealer a été arrêté. Il est jugé aujourd'hui. Il menait son petit trafic de cannabis et de cocaïne en trottinette électrique et avec comme base arrière un gîte touristique, Marc Bertrand.
Ce sont les riverains qui ont alerté les gendarmes, excédés par les allées et venues à toute heure dans cette petite rue du quartier du Breuil. Des enquêteurs en civil se mettent en planque et jeudi, ils surprennent le jeune homme en flagrant délit avec un client. Il essaye de s'enfuir et court jusqu'à son gîte qu'il loue à proximité. À l'intérieur, les gendarmes retrouvent de l'argent liquide, de la cocaïne, de la résine et de l'herbe de cannabis. Ils ont aussi saisi son poing américain et sa trottinette électrique parce qu'il pense qu'elle a servi pour les livraisons de drogue dans les petites rues de Sarlat. Le jeune homme n'a pas de travail. Il est lui-même addict et la drogue, il l'achète à un anonyme en passant par les réseaux sociaux. C'est même sans doute comme ça qu'il est devenu une petite main du trafic en revendant pour payer sa propre consommation.
Précision France Bleu Périgord. Dans le Nord, c'est une menace d'une toute autre ampleur qui a mobilisé les policiers de la sous-direction antiterroriste. Trois hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été interpellés dans la région de Dunkerque et mis en examen hier. Le suspect principal est un jeune de 19 ans, islamiste radical, inconnu des services de renseignement et qui avait rédigé un courrier d'allégeance à l'État islamique. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
C'est un profil de plus en plus fréquent, notent les enquêteurs.
Oui, c'est impressionnant, confié ce matin un proche de ces dossiers terroristes pour évoquer cette nouvelle affaire d'attentat déjoué ou de projet d'action violente. À Dunkerque, on peut reprendre les derniers dossiers, les profils des suspects. On pourrait presque faire un copier-coller, allusion directe aux attaques terroristes initiales à Conflans-Sainte-Honorine pour Samuel Paty ou Arras en 2023 avec l'assassinat de Dominique Bernard. Des suspects radicalisés à l'adolescence avec une addiction aux réseaux sociaux islamistes, puis aux chaînes de messagerie cryptées et un passage à l'acte entre 17 et 20 ans. Depuis, il y a eu ce projet déjoué à Saint-Étienne en mai 2024 où c'est le stade de foot qui était la cible, ou encore en décembre dernier avec ce projet de faire exploser la mairie de Poitiers. On est dans la plupart des cas aux limites de troubles psychiatriques, estime la même source, pour qui c'est encore le cas avec ce jeune homme de 19 ans à Dunkerque, rappelant que c'est son entourage qui a donné l'alerte. Il était en crise à nouveau depuis quelques semaines et s'il n'avait pas réussi à confectionner une vraie ceinture d'explosifs, il avait plusieurs couteaux selon nos informations. Dans ses discussions sur Snapchat, il était également question de foncer sur une foule avec une voiture, un mode opératoire, on le sait, malheureusement classique.
Il y a tout de même un contre-exemple, Emmanuel, c'est le ressortissant algérien qui est jugé en ce moment pour un attentat à Lyon.
À l'époque, les enquêteurs évoquaient justement un profil rare de terroriste islamiste, un étudiant brillant, pas de soucis familiaux, pas isolé et pas de problèmes psychiatriques, le seul à l'époque en 2020 à avoir réussi à confectionner sur le sol français, tout seul, dans sa chambre, du TATP, une bombe avec dans son colis piégé des vis et des billes d'acier.
Merci Emmanuel Leclerc, je ne regrette rien, tous les objectifs ont été atteints, a revendiqué ce matin Mohamed Medjoub, dont vous nous parliez à l'instant. Son procès en ce moment devant la cour d'assises spéciale de Paris. Lui échappe pour l'heure à la justice française. Le blogueur d'extrême droite, Boris Lelay, plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciste et antisémite, mais jamais arrêté car installé à l'étranger. Eh bien, il a refait parler de lui ce week-end. Il est suspecté d'être l'administrateur d'un blog sur lequel des menaces de mort ont été publiées. Menaces qui visent le député de Dordogne, Sébastien Peitavi, le seul de l'Assemblée en fauteuil roulant. Ce blog appelle à un retour d'un programme nazi d'extermination des personnes handicapées. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Qui est ce Boris Lelay ?
C'est un poids lourd de la fachosphère, la mouvance d'extrême droite sur Internet, un multi-récidiviste de la haine raciale condamné une dizaine de fois par la justice. Boris Lelay, 43 ans, est soupçonné d'être derrière le site haineux Démocratie Participative que l'on trouve très facilement via les moteurs de recherche. Un blog au saillie raciste et xénophobe avec de longs podcasts. Dans son dernier post hier, il ne regrette pas ses propos contre les députés et l'insulte de nouveau. Exemple de son influence, en 2016, un article mis en ligne sur son site évoque l'accueil de migrants dans une commune bretonne. Quelques minutes plus tard, la mairie est assaillie d'appels et de messages haineux. Boris Lelay a pour habitude de s'en prendre à des élus. Dernier procès en date en décembre dernier pour des propos antisémites écrits sur son site contre une élue renaissance de confession juive. Encore une fois, Boris Lelay était absent de l'audience.
Il est donc à l'étranger, on ne sait pas où précisément. Cela veut dire qu'il est intouchable ?
Insaisissable, fichier S visé par plusieurs mandats de recherche et d'une notice rouge Interpol. Le Breton vivrait au Japon depuis 10 ans, là où il s'est réfugié. Le journal Le Télégramme avait remonté sa trace en 2022 dans une ville de la banlieue de Tokyo, mais on ne sait rien de sa vie d'aujourd'hui, ce qu'il s'y trouve encore. En tout cas, son site est hébergé aux États-Unis. La justice française ne peut pas le fermer et malgré toutes ses condamnations, impossible de l'extrader car il n'y a pas d'accord entre les gouvernements français et japonais.
Victor Vasseur, on n'est pas sur une dégringolade de type bourse, mais c'est tout même un petit lundi pour les élus du Rassemblement National et pour Marine Le Pen. Il rêvait hier place Vauban à Paris d'une des démonstration de force pour dénoncer la décision des juges, la condamnation pour détournement de fonds et l'inéligibilité pour 5 ans avec exécution immédiate de Marine Le Pen. Au final, les soutiens n'étaient pas plus de 7000 selon les autorités et les autres n'ont pas été dissuadés par la météo. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Pour autant, le RN ne regrette pas d'avoir appelé à la mobilisation.
Non, dans les boucles WhatsApp ce matin, des messages plutôt positifs. Alors certes, il y a eu des sueurs froides vers 14h alors que les bus tardaient à arriver, mais venus des différentes fédérations, des cars ont fini par déverser un flot de militants, assez en tout cas pour garnir les premiers rangs. 7000 donc selon les autorités, loin du grand rassemblement populaire espéré, mais suffisant, dit un cadre, pour prouver que le parti fait bloc derrière Marine Le Pen. Des élus lepénistes qui, pour justifier ces chiffres plus faibles qu'escomptés, énumèrent aussi les difficultés rencontrées. Un temps très limité, des autocaristes pas toujours disponibles et un électorat RN très faible à Paris. Et puis quand on se compare, on se rassure. Le Rassemblement National de citer aussi les autres manifestations du jour. Ce n'est pas comme si la gauche avait réellement fait mieux, grince un responsable. Ni galvanisé, ni dépité, donc un RN qui entend continuer son bras de fer sans changer un iota à sa ligne de défense.
Élodie Forêt, à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, ce sont les élections municipales qui sont au menu. En l'occurrence, le mode de scrutin, cela concerne les villes de Paris, Lyon et Marseille. Le gouvernement veut modifier ce mode du scrutin à un an du vote. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui pourrait changer ?
Alors concrètement, le jour des municipales, les électeurs parisiens, lyonnais et marseillais auraient désormais non plus un, mais deux bulletins de vote entre les mains. Un premier, comme aujourd'hui, pour choisir leur conseiller d'arrondissement, mais aussi un second, c'est nouveau, pour élire directement le conseil municipal sur une circonscription unique. C'est ce second bulletin qui rendrait le vote plus lisible. Le nouveau maire de Lyon, par exemple, serait élu directement par les habitants, comme dans toutes les autres villes de France, et réunirait ainsi une majorité de voix sur son nom, alors qu'aujourd'hui, un maire de Paris peut très bien être élu sans le vote populaire. C'est ce qui s'était passé en 2014, quand Anne Hidalgo s'était imposée, tout en ayant été largement battue dans le 15e arrondissement.
Et l'autre changement de cette loi PLM, donc Paris, Lyon, Marseille, ce serait de donner davantage de poids aux oppositions, c'est ça ?
Oui, aujourd'hui, la liste qui arrive en tête remporte automatiquement 50% des sièges au conseil municipal, l'autre moitié étant répartie à la proportionnelle. Ça permet de garantir aux vainqueurs une majorité stable pendant 6 ans, c'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. L'idée de la nouvelle loi serait de réduire cette prime qui passerait de 50 à 25% des sièges. Ça rendrait moins hégémonique la majorité en place, mais ça la fragiliserait aussi, selon ses intérêts. Les uns sont donc pour la loi PLM, les autres contre, ce qui explique largement l'absence totale de consensus sur ce texte à un an des prochaines municipales.
Suspense pour savoir si ce texte sera donc adopté.
Cet après-midi à l'Assemblée, on en verra peut-être un peu plus clair. Ouais.
Merci Julien Nenni, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Ensoleillé, je ne trahis pas de grands secrets. Puis à partir de 13h30, bah justement, le business des terrasses dans nos villes. Les terrasses éphémères sont installées depuis quelques jours. Ça rapporte pour les cafés, pour les restaurants, pour les communes aussi, mais ces communes fixent de plus en plus de limites. Que vous soyez restaurateur ou riverain, appelez-nous. Vous le faites déjà, 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans leur vie, notre feuilleton dans un cabaret. Il y en a 200 en France, ils attirent près de 2,5 millions de spectateurs chaque année. Et nous passons notre semaine près de Roanne. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Mathieu, les mots de nos régions pour parler des bébés.
Aujourd'hui, je vous emmène au pays des premiers mots de bébé. Vous savez, ces petits sons universels que babillent tous les nouveau-nés. Bébé, papa, mama et même doudou. Rien qu'à les entendre, on fond.
Et avec vous, Frédéric, on va fondre pour un saxophoniste.
Grand saxophoniste de jazz, il s'agit de Pierrick Pédron, qui sera en concert au Sunside à Paris à la fin de la semaine prochaine. Et avec lui, c'est un tube d'Axel Bauer que l'on écoutera, Cargo de nuit. Elle a plus de 40 ans cette chanson.
Ah, déjà ?
On n'était pas bien grand, Jérôme.
On peut le dire ainsi. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Stack désigne en anglais les piliers de la mer, détachés de la côte. D'Étretat au Cap Horn, ces sentinelles de roches se dressent par milliers devant les falaises côtières.
Sylvain Tesson.
Qui êtes-vous, tour de la haute mer ? Tout bouge autour de nous, vous ne reculez pas. Je veux me balancer dans les vagues, grimper ces aiguilles au milieu des oiseaux. Je pars vous escalader, dernier refuge de la beauté.
Les piliers de la mer, le nouveau livre événement de Sylvain Tesson, chez Albin Michel.
Chantal Latsou, chef de la brigade d'intervention Akena, que se passe-t-il, monsieur?
Je voulais m'équiper d'une pergola, et on m'a clairement dit de m'adresser à vous, parce que...
Ah, pop, j'ai compris, vous avez bien fait de m'appeler aujourd'hui, parce qu'après, ça aurait été trop tard. Les vérandas, les pergolas, les carports, c'est maintenant sur akena.com.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas!
Le temps de votre après-midi.
La météo... Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est donc une journée douce et souvent ensoleillée.
Oui, beaucoup de soleil en effet, il domine sur la plupart des régions. Alors sur le sud-ouest, il y avait beaucoup de nuages ce matin, mais ils se morcellent. Le soleil revient progressivement, il restera juste des nuages bas sur le littoral aquitain. Peut-être une averse sur les Pyrénées cet après-midi. Risque d'averse aussi sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur la Corse, là sous un ciel parfois bien encombré. Les températures ressemblent à celles d'hier, elles sont plutôt douces, sauf en Méditerranée où elles baissent nettement. Il fait souvent 15 à 20 degrés, 19 à Paris, Tours, Lyon, Toulon, jusqu'à 20 à 23 degrés de la pointe bretonne au sud-ouest, les 23 à Bordeaux par exemple. Mmh. Demain, le soleil l'emportera très largement, juste des nuages bas sur l'Aquitaine le matin. Un ciel plus variable encore sur la Provence et la Corse. Les températures seront trop basses le matin, mais l'après-midi, elles seront en hausse, très douces même sur le sud-ouest, on ira jusqu'à 26 degrés. Et globalement, c'est toute la semaine qui s'annonce bien ensoleillée. Ça va se gâter à partir du week-end par le sud.
On a le temps pour cela. Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. De 13-14, Jérôme Cadet.
Avant que ça se gâte, c'est donc pour l'instant un temps et une semaine à terrasse. Vous l'avez compris, c'est l'un des plaisirs du printemps. Mais c'est aussi, on l'a un peu oublié, un héritage du Covid. Quand, pour éviter la contamination, les cafetiers ne pouvaient servir qu'en terrasse. Ces terrasses ont donc gagné des mètres carrés sur les trottoirs, sur les places de stationnement. Les chiffres d'affaires, eux aussi, ont gonflé. Tout comme les redevances, plusieurs milliers d'euros versés aux communes. Sans oublier les décibels, elles aussi, en hausse pour les riverains. Alors comment se passe la cohabitation en ce printemps? Est-on allé trop loin dans les autorisations ou au contraire, les communes posent-elles trop de règles? Nous en parlons avec nos invités. Sylvie Durruty, bonjour.
Bonjour.
Première adjointe au maire de Bayonne, dans le Pays Basque. Vous êtes également vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays Basque, en charge du développement économique. Vous nous direz comment cela se passe dans votre ville et les règles que vous fixez aux cafetiers et restaurateurs, représentés ici par David Zenouda. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMI, branche café, bar et monde de la nuit. Vous-même possédez deux bars de nuit et deux restaurants à Paris. Merci d'être avec nous. Plusieurs appels d'ores et déjà, 01 45 24 7000. Vous nous écrivez également via l'application France Inter. Et Clémence est en ligne avec nous de Lyon. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Alors, vous êtes vous-même une adepte des terrasses ou au contraire, vous en subissez le bruit?
J'en subis le bruit.
Racontez-nous.
Voilà, j'habite depuis plus de 10 ans au 3e étage dans la presqu'île de Lyon. Et tous les petits commerces autour de chez moi, tels que, traiteurs, merceries, tout ça, ferment et sont remplacés maintenant par des bars, petits bars resto avec terrasse. C'est très agréable, bien entendu, pour les gens, mais pour moi personnellement et certainement pour d'autres, je n'ai pas fait un sondage, ça devient très lourd à supporter parce qu'ils ont droit d'être ouverts jusqu'à 1h du matin.
Tous les soirs?
Tous les soirs, sauf le dimanche soir. Pour laisser les gens... Je crois que le dimanche soir, ça doit être minuit. Il doit y avoir un truc comme ça. Et donc... On a les bruits de fond qui montent, malgré les fenêtres fermées. Vous savez, les bruits de fond, les gens dehors, parfois crient, rient, ça pousse des cris, et ça monte. Mmh. Et même dans la journée, à la rigueur, dans la journée, on ne peut rien dire, mais moi, si j'ouvre mes fenêtres, je peux suivre la conversation des gens qui sont 3 étages plus bas. Donc, imaginez, le soir, je peux les entendre également, même si les fenêtres sont fermées.
Vous avez sollicité la municipalité lyonnaise sur ce point, peut-être?
Non, je n'ai toujours pas fait, parce que c'est les deux bars là qui maintenant me dérangent, ils sont ouverts que depuis peu de temps, depuis quelques 2-3 mois, 4 mois. Mm-hmm. Donc il va falloir que je vois s'il n'y a pas un regroupement de de Lyonnais qui ne sont pas satisfaits, mais avant, dans les quartiers où il y avait les bars et les boîtes de nuit, quand les gens sortaient, il était précisé « Veuillez vous taire pour respecter le silence, pour respecter les voisins ». Mais ici, en terrasse, les gens ne se rendent pas compte que le bruit est constant et monte.
Jusqu'à votre appartement. Merci Clémence pour ce témoignage. J'ai noté 3000 terrasses éphémères à Lyon, 4500, elles ont été installées la semaine dernière à Paris, dont les vôtres, David Zenouda. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que les riverains qui se situent autour de vos restaurants ou de vos bars ne sont pas importunés par le bruit des clients en terrasse?
Déjà, c'est 4500 terrasses éphémères, estivales, pardon, qui ouvrent jusqu'à 22h. Donc déjà, il y a une limitation en termes d'heures.
Paris, c'est 22h.
Paris, c'est 22h pour ce qui est des terrasses estivales. Il est évident que des terrasses sont ouvertes aussi jusqu'à plus tard, mais la législation est assez ferme là-dessus. Le règlement des étalages et terrasses qui a été mis en place avec les organisations syndicales et la mairie de Paris, pour la mairie que je maîtrise et que je connais, a été vraiment bien négocié avec une réglementation très ferme, très stricte, et puis l'application de ces règles par la police municipale de manière extrêmement vigilante. Donc, c'est vrai
ça veut dire que vous, à 21h30 ou 21h45, vous arrêtez de servir ou vous demandez aux clients de partir déjà ?
Il faut déjà réfléchir avant quand on prend des clients et puis faire en sorte, parce qu'on parle de terrasse estivale pour la restauration, il est très dur de servir après 21h15, 21h30, puisque le client doit partir à 22h et quitter la terrasse estivale. Donc soit on les regroupe à l'intérieur de l'établissement, soit on leur demande gentiment de baisser un peu le volume sonore, mais tout ça, c'est une question de vigilance, d'organisation avec son service, et puis de médiation avec les différents services de police ou de riverains.
Sylvie Durruti, vous qui êtes adjointe au maire de Bayonne, quels sont les horaires de fermeture chez vous à Bayonne et les précautions que vous prenez pour éviter que les riverains ne soient importunés par le bruit ?
Alors les heures de fermeture, c'est... Alors là, nous ne parlons pas de terrasses éphémères, mais bien des terrasses à l'année, puisqu'à Bayonne, les cafetiers restaurateurs ont bien des terrasses à l'année. Et donc, les heures de fermeture, c'est 2h du matin, sauf pour des événements exceptionnels où nous allons de temps en temps réduire ces horaires à 1h du matin. Ce sera le cas à la fin de cette semaine pour la foire au jambon, par exemple.
2h du matin, il n'y a pas de problème de bruit ?
Alors... Le sujet qui est évoqué là, c'est bien celui des conflits d'usage susceptibles d'intervenir entre les gens qui font le choix de résider dans nos centres-villes et qui ont, comme tout un chacun, le droit à pouvoir bénéficier du calme et de la sérénité. Donc, je crois que, comme ça vient d'être évoqué, le sujet, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun sache raison garder pour que, le bien-vivre ensemble et le respect soient au maximum présents. Mais bien évidemment, nous sommes obligés, nous aussi, d'effectuer des contrôles avec la police municipale.
Vous dressez beaucoup de procès-verbaux chaque année ?
Alors, assez peu, parce que nous essayons d'être au maximum dans la concertation et dans la médiation, nous aussi. Mais bien évidemment, il y a aussi, lorsqu'il y a du tapage nocturne, lorsqu'il y a trop de bruit, la police municipale, bien sûr, et la police nationale, d'ailleurs, interviennent autant qu'il le faut, avec, je le répète, une brigade de nuit qui nous permet d'être là aussi au plus près des attentes de nos habitants qui peuvent, à tout moment de la nuit, contacter ce numéro s'ils en ont besoin. Voilà.
On va venir dans quelques minutes sur les règles que vous fixez pour les restaurateurs. D'abord, l'enjeu pour vous, David Zenouda, j'ai lu qu'un restaurateur pouvait doubler son chiffre d'affaires avec une belle terrasse et un beau soleil comme aujourd'hui.
Oui, alors ça n'a pas été le cas depuis 8 mois, je vous le rappelle. La situation de nos métiers est actuellement en crise. Je vous rappelle qu'un restaurant sur 23 restaurants par jour ferme aujourd'hui dans notre secteur d'activité. Donc, cette arrivée du beau temps précoce et l'installation des terrasses estivales est une bonne chose pour nous. Mais c'est vrai que c'est une manne et puis surtout une source d'emploi. On parle toujours du chiffre d'affaires généré par ces terrasses, mais on crée de l'emploi. Un tiers du personnel pendant la période estivale est utilisée. Donc c'est vraiment une source d'emploi et ça, vraiment, c'est un intérêt pour tous, pour le restaurateur, pour le commerçant et puis pour les personnes qui cherchent à travailler dans notre secteur.
Quel est le montant des redevances que vous versez à la ville de Paris, puisque vous êtes installé à Paris ?
Alors, je n'ai pas le montant exact, mais je sais qu'on a augmenté de manière significative les terrasses depuis l'installation des terrasses estivales. Je crois que c'est un calcul qui est assez complexe parce que c'est en fonction des zones et des rues.
Mais vous, combien vous payez, par exemple ? Vous êtes dans le 10e et dans le 17e. C'est quoi ? C'est plusieurs milliers d'euros ?
C'est plusieurs milliers d'euros.
Plusieurs milliers d'euros. Moins de 10 000 ?
Alors, c'est moins de 10 000. C'est après, ça 10 000. Dépend de la taille de D'accord. l'établissement. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros pour une grande brasserie parisienne.
Mais c'est rentable, ça on l'a bien compris.
Et bien évidemment que c'est rentable, il faut que la météo soit au rendez-vous, et bien non.
Quel est le tarif à Bayonne, chez vous, Sylvie Durruty ?
Alors le tarif est très variable en fonction d'abord de la localisation, puisque selon le secteur nous avons une tarification différenciée, et aussi en fonction du moment de l'année, puisque par exemple pour certains événements festifs nous avons une tarification spéciale qui s'adapte. Mais en fait pour nous à Bayonne les terrasses sont globalement de petite taille, hein, puisque nous avons un habitat patrimonial, hein, très particulier.
Mais pour qu'on ait un ordre d'idée, c'est quoi ? C'est plusieurs dizaines d'euros, centaines d'euros, milliers d'euros que vous versent les restaurateurs chaque année ?
Alors c'est vraiment excessivement variable. Franchement, ça peut être entre 200 et au-delà du millier d'euros. Voilà.
D'accord. Ouais.
Là, je parle pour les redevances mensuelles. Ensuite, je le redis, pour des événements exceptionnels, là pour le coup, il y a des dispositifs et des dispositions spéciales qui nous permettent de pouvoir tout simplement, là aussi, avoir une tarification adaptée à ce que représentent ces événements.
Et vous avez choisi cette année de faire adopter un nouveau règlement pour ces terrasses, qui est d'ailleurs contesté par plusieurs restaurateurs de la ville de Bayonne. Pourquoi avoir décidé de ce nouveau règlement ? Vous aviez constaté des abus ou une pagaille des terrasses qui peut-être se déployaient de manière un peu désordonnée dans votre ville et de manière pas très esthétique ?
Alors déjà, un premier élément, comme toutes les villes, hein, depuis une quinzaine d'années, donc ce n'est pas forcément l'actualité aujourd'hui, l'usage des terrasses est passé d'une pratique saisonnière exclusivement par beau temps à une pratique beaucoup plus large, quelle que soit la saison ou le temps qu'il fait. Donc ce changement d'usage, c'est vrai, c'est accompagné de la multiplication, y compris d'un certain nombre de dispositifs de protection, c'est logique. Quand il pleut, on n'a pas envie de se mouiller. Quand il fait soleil, on n'a pas envie de trop s'exposer. Donc on fleurit des parasols, des stores, et les terrasses se sont aussi possiblement agrandies, en tout cas dans la... Donc, la réalité, c'est que nous avons, dès 2019, mis en place une charte des terrasses à Bayonne pour les quartiers restaurateurs. Nous n'avons pas... c'est un phénomène que nous avions déjà constaté, en concertation, bien sûr, avec l'UMI, hein, ce ne sont pas des dispositions que nous avons imposées, mais c'est vrai que... après toute la période post-Covid et, je dirais, les usages qui ont d'occupation du domaine commercial, du domaine public, qui ne concernent, je veux le rappeler à cet instant, pas uniquement que les cafetiers restaurateurs, mais bien tous les commerçants, nous avons souhaité élargir donc notre charte des terrasses à une charte d'occupation commerciale du domaine public. Et ceci depuis mars cette année.
Et donc, elle est plus restrictive, cette charte. J'ai lu, par exemple, que vous n'acceptiez plus les tonneaux. On ne peut pas installer un tonneau devant son établissement pour mettre autour un ou deux consommateurs.
En réalité, ils étaient déjà interdits depuis 2019. Hein. Je vais oser même dire que la nouvelle charte votée cette année nous permet d'être un petit peu plus permissif sur notamment les quais de la Nive, hein, où là, les tonneaux, parce qu'historiquement, y en a à Bayonne, la rue des Tonneliers, donc comment interdire des tonneaux à proximité de la rue des Tonneliers, mais clairement... Nous avons des endroits dans lesquels nous souhaitons être en parfaite harmonie avec la qualité urbaine, la qualité patrimoniale de la ville et surtout les espaces qui, je le répète, sont très contraints pour nous.
Les manches debout sont acceptées chez vous à Bayonne ?
Oui, absolument, ils le sont.
C'est le cas à Paris,
David Zanouda ? Oui, également, mais après, c'est culturel. Bayonne, le sud-ouest, on a l'habitude de consommer debout. À Paris, c'est pas trop le cas. Et puis, la météo n'est pas la même non plus entre Bayonne et Paris. Et c'est vrai que c'est une question d'habitude et d'usage.
Jeanne-Hélène de Nantes nous demande, j'habite l'hypercentre, enfin nous demande, c'est un constat, j'habite l'hypercentre et depuis le développement des terrasses, il n'y a plus de place de stationnement dans le centre-ville. Qu'est-ce que vous répondez, David Zanouda ?
C'est une volonté de la ville de Paris.
Vous avez pris des places de stationnement devant vos établissements.
Les places de stationnement stationnements sont autorisés les terrasses sont autorisées sur les places de stationnement. C'est une volonté de la maire de Paris. On la remercie d'ailleurs parce que 4500 terrasses supplémentaires par rapport à avant le Covid, c'est quand même une grande chance et une belle opportunité pour nos établissements. C'est vrai que ça réduit les places de stationnement, mais c'est une politique générale de la ville. C'est pas seulement pour l'accessibilité aux terrasses.
Qu'est-ce qui est fait à Paris, David Zenouda, pour harmoniser, j'ai envie de dire, les terrasses? Est-ce qu'il faut que ça soit dans un certain type de bois, oui. Les barrières, une certaine hauteur?
Il y a une réglementation, il y a une certaine hauteur, il faut effectivement une accessibilité pour les handicapés, il faut une esthétique qui soit la plus agréable possible pour la ville, et puis c'est un plus. Pour l'économie de la ville, c'est un plus pour le tourisme, c'est un plus pour les restaurateurs, c'est un plus pour l'emploi. Donc c'est vrai que les problèmes que nous pouvons avoir avec les riverains, ce sont d'abord des choses à régler, à discuter ensemble. Il y a des commissions des débits de boissons qui sont mises en place pour restreindre l'utilisation abusive de terrasses. Donc c'est vrai qu'on est dans la discussion et on y arrive.
Dernière question, Sylvie Durruti. Je tiens chez vous à Bayonne une librairie, je suis disquaire, je suis fleuriste, j'ai un hôtel. Est-ce que je peux mettre 2-3 tables devant mon établissement et servir du thé par exemple ?
Non, normalement, non, c'est pas autorisé du tout, puisque la plupart, il faut absolument que l'établissement puisse avoir des toilettes hein, pour pouvoir proposer ce type de service. Et donc, la réponse est non. En revanche, ce que nous avons autorisé hein, dans le cadre de cette nouvelle charte d'occupation commerciale, c'est ce que nous appelons du mobilier de convivialité, mais les commerçants vont faire un choix. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas multiplier à la fois les présentoirs, le mobilier de convivialité ou un objet que nous qualifions d'iconique pour tout simplement interpeller le chaland.
Il faut que ça reste harmonieux, si je comprends
harmonieux,
bien.
Harmonieux, modéré, maîtrisé et surtout qu'ils puissent à tout moment préserver l'accessibilité à tous les publics, notamment les personnes en situation de handicap par exemple, les PMR, laisser aussi la lisibilité des espaces publics et des aménagements urbains pour lesquels, bien évidemment, nous sommes très largement engagés. Mais à Bayonne, nous avons un centre piétonnier très très vaste, un plateau piétonné, donc c'est vrai que nous, pour le coup, ce sujet avec le stationnement ne se pose pas.
Merci Sylvie Durruti, première adjointe au maire de Bayonne, d'avoir été en ligne avec nous. Je remercie également David Zenouda, vice-président de l'UMI, de nous avoir rejoint ici dans ce 13-14, 13h46 sur Inter. Une semaine dans la vie d'un cabaret. Des salles de spectacle en plein renouveau dans notre pays, on le sait peu, mais la majorité d'entre elles sont installées hors des grandes villes et souvent dans de petites communes. Direction Renaison, cette semaine nous sommes près de Roanne, dans la Loire. L'établissement s'appelle L'Élégance, cabaret créé il y a 10 ans. Nous suivons notre reporter Victor Vasseur et c'est Frédéric Gratteau, le co-gérant, qui nous accueille.
Alors là, on rentre dans les loges de scène où sont stockés tout ce qui est décor et grosse structure plume pour la grande revue cabaret. Il y a vraiment tout un style de parure, en fait, que ce soit du strass, que ce soit de la plume. Alors ça, c'est des grandes structures, donc c'est des gabrielles de plume, typiques de la revue cabaret à la française. C'est des grandes structures avec des plumes d'autruche, des strass, etc. Donc les danseuses ont ça d'accroché dans le dos. Pour certains tableaux. Nous, à l'Élégance, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on fabrique tout nous-mêmes. Donc toutes les structures, plumes, décors, ça permet d'avoir vraiment des costumes sur mesure par rapport à notre spectacle. Ça fait quand même 26 ans qu'on fait ce métier avec mon associé, qu'on a créé la production. Donc on a fait 15 ans d'itinérance, donc à arpenter la France et un petit peu l'étranger.
En cabaret.
Oui, en cabaret, on faisait beaucoup de comédies musicales pour enfants, des spectacles à thème, etc. Et puis il y a 10 ans, on a décidé de se poser donc à Renaison et de créer l'Élégance pour pouvoir vraiment faire un spectacle aux dimensions qu'on avait envie. Parce que le fait de faire de l'itinérance, il faut s'adapter aux scènes. Et c'était compliqué à chaque fois. Et le fait d'être à la maison, en fait, on adapte la scène en fonction de ce qu'on a envie de créer, quoi.
Faut vraiment être un couteau suisse quand on dirige un cabaret.
Complètement, on n'a pas le choix en fait. Il faut à la fois être au bureau pour l'administratif, puis après le côté plus, c'est ce que nous on aime en tout cas, c'est toute la partie création, conception des lumières, c'est ça vraiment ce qui nous plaît.
Quel est le budget pour monter un spectacle?
Là, si on prend le dernier spectacle, c'est 160 000 euros. C'est toute la création, c'est les 5 semaines de répétition, les décors, les costumes, la fabrication des bandes en studio, l'achat des costumes, la fabrication des costumes, enfin voilà, c'est tout ça. Ouais.
Vous pouvez accueillir combien de personnes ici à l'Élégance ?
Alors, en dîner spectacle, notre salle peut accueillir 480 personnes. Et là, si on prend le mois de mars, on est quasiment complet tous les week-ends. Si on prend le mois de mars, on est à 17 représentations, par exemple.
Les cabarets, c'est pas seulement à Paris, c'est pas seulement les grands musicaux, le Moulin Rouge, etc.
Non, on est plus de 200 cabarets en France, quand même. Et l'essentiel des cabarets sont en province. Enfin, en province, en région, je vais faire engueuler si je dis en province. Quasiment tous nos confrères sont dans des villages qui ont moins de 4-5 000 habitants.
Justement, ici à Renaison, 3 000 habitants, c'est ça ?
Oui, c'est ça, ouais, 3 000 habitants. Ouais.
C'est ce qu'on appelle un cabaret de proximité.
Exactement, voilà.
Qu'est-ce que ça apporte pour une commune, pour un cercle de vie ?
Déjà, on amène du tourisme, malgré tout. Indirectement, les spectateurs qui viennent à l'Élégance, ils font tourner les chambres d'hôtel, ils font tourner les gîtes. Nous, après, on essaye, comme on fait toute notre cuisine, on a un chef cuisinier, on fait travailler les locaux. Donc le vin qui est sur la table, le viticulteur, il est à 200 mètres du cabaret, par exemple. Donc voilà, ça génère une économie circulaire sur toute la commune, en fait.
Et on poursuit la visite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h50, nous sommes avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Mathieu, c'est la journée mondiale de la santé. Aujourd'hui, elle est consacrée au nouveau-né. Alors, vous nous parlez des premiers mots.
Exactement, Jérôme, parce que même si les bébés ne parlent pas encore, ils façonnent déjà la langue, ou plutôt, c'est la langue qui se façonne autour d'eux. Et ce n'est pas un hasard si, partout sur la planète, les nourrissons balbutient « mama » et « papa » pour désigner leurs parents. En réalité, ces sons-là sont souvent les tout premiers que les bébés parviennent à articuler. Et ce sont aussi ceux que les parents ont envie d'entendre. Alors forcément, ils les interprètent comme des appels, ils les adoptent et finissent par les intégrer dans le lexique familial. Voilà comment ces premières syllabes balbutiées deviennent des mots chargés d'affect. En linguistique, figurez-vous que ce phénomène porte un nom. On parle de réduplication affective. Mmh. C'est quand on double une même syllabe simple pour exprimer la tendresse, la proximité ou le lien. Du coup, dormir, ça devient dodo. Pisser, ça donne pipi. Biberon, bibi, lapin, pimpin, et j'en passe. Vous allez me dire, quid du doudou dans tout ça ? Doudou, c'est tout simplement le redoublement de l'adjectif doux, un mot qui à lui seul exprime la chaleur, le réconfort, l'attachement et les tout débuts de notre rapport à la langue.
Et est-ce que ces mots-là, Mathieu, changent d'une région à l'autre ?
Tout à fait, Jérôme, parce que doudou, ce n'est pas le seul nom qu'on donne à cet objet magique. Dans le nord de la France, on parle souvent de nain-nain. Ailleurs, c'est un titi, un lala ou même un loulou. Et ces variantes ne sont jamais anodines. Elles reflètent des habitudes locales, une créativité familiale et parfois même un petit héritage dialectal encore bien vivant. Notez que cette variation régionale autour des mots du bébé ne s'arrête pas au doudou. Prenons un autre objet fétiche du nourrisson, la tétine. Ce petit embout en plastique que le bébé suçote pour se calmer, il change de nom à chaque virage du pays. Dans le langage courant, on entend totote, totos, tutut, mais dans les Landes, ça devient un chuchu. En Franche-Comté, une chelotte. En Normandie, on parle carrément de sus. C'est un mot qu'on retrouve aussi au Québec, d'ailleurs. En Alsace, on entend parfois loli ou néné, à croire que le réconfort a toujours l'accent du terroir. Et ce florilège continue même quand il s'agit de nommer les toutes premières parties du corps. Pour les petits garçons, on connaît tous le zizi, un classique de la réduplication, mais dans le sud, on dit plutôt kikette. Dans le nord, c'est biloute, et c'est comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Quant aux filles, elles n'échappent pas à la créativité linguistique. Fifi, kikine, guiguite, gougoute, des mots souvent cocasses qui permettent de nommer sans gêne, avec affection et légèreté, ce qui fait partie du corps, mais aussi du quotidien.
On voit que l'inventivité de la langue française est sans limite, Mathieu. Finalement, ces mots enfantins sont de petits marqueurs de notre identité.
Mais oui, les mots des tout-petits, ils nous rappellent que la langue ne se construit pas seulement à l'école ou dans les livres, elle naît d'abord
d'abord dans les bras et dans les gestes des parents, en fait dans les moments qu'on partage en famille. Ces mots-là ne s'apprennent pas, ils s'attrapent. On les imite, on les adapte, on les garde même parfois toute la vie. Et surtout, ils nous disent quelque chose d'essentiel, que la langue, avant d'être un moyen de dire, c'est avant tout une manière d'être ensemble. Un lien, une émotion, un murmure au creux de l'enfance. Doudou, c'est peut-être le premier mot qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on ressent déjà.
Un Mathieu Avanzi plein de poésie aujourd'hui. Vous aussi, Frédéric Pommier, de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est un musicien de jazz qu'on retrouve à votre micro aujourd'hui. Il s'agit du saxophoniste Pierrick Pédron.
Il sera en concert la semaine prochaine sur la scène du Sunside à Paris avec son quartet. Il présentera le répertoire de son nouvel album, The Shape of Jazz to Come, reprise d'un disque mythique de l'américain Ornette Coleman. Et c'est une chanson mythique également qu'il a souhaité que l'on écoute. Cargo d'Axel Bauer, Pierrick Pédron avait 14 ans quand il a découvert ce tube.
J'ai adoré tout de suite ce morceau parce que à l'intérieur de ce morceau-là, il y avait un petit peu tout ce que j'aimais dans la musique, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les influences anglo-saxonnes que je pouvais écouter auparavant. Puis aussi, il y avait les Marquis de Sade à Rennes. À ce moment-là, c'était des gens que j'essayais d'approcher et j'aimais beaucoup leur style de musique. Et je ressentais finalement, bizarrement, dans ce morceau-là, quelque chose qui venait de cela. Mais en plus, il y avait ce groove incroyable parce qu'il y avait ce batteur Manu Katché qu'on aimait tous à l'époque et qui jouait sur ce tube. Donc.
Et vous, vous faisiez déjà de la musique ?
Ah, moi, j'étais saxophoniste déjà. C'était mes débuts dans le jazz aussi. Je m'intéressais au jazz. C'était 14 ans, voilà, je faisais des balles en Bretagne. Je faisais beaucoup de balles tous les samedis avec toute ma famille. Et là, il y a un truc quand même assez incroyable dans ce morceau. Ce qui n'est pas si courant quand même à l'époque, c'est qu'il y a un sacré chorus de guitare. Et qui n'est pas si simple que ça, parce que moi je faisais du sax à ce moment-là, mais je faisais aussi de la guitare. Et donc j'avais essayé de repiquer, ce qu'on dit dans le jargon un peu, de relever donc le solo de guitare, mais qui était extrêmement difficile, et à l'époque je n'y arrivais pas.
Et c'est Axel Bauer qui joue.
Et c'est Axel qui joue, oui.
35 jours sans voir la terre, purée mal rasée, on vient de débarquer.
C'est en 1984 qu'est sortie cette chanson d'Axel Bauer, Frédéric.
Son tout premier single, que Pierrick Pédron ne peut écouter sans une certaine émotion. D'abord parce que ça lui rappelle ses 14 ans. Ensuite parce qu'après l'avoir rencontré lors d'un concert, il est devenu copain avec Axel Bauer.
C'est quand même curieux de connaître quelqu'un qui a un peu bercé son enfance. Hein. Mais t'arrivais de vivre un peu la même chose, quelque chose d'assez fort comme ça, un gros flash avec le guitariste et chanteur des Pink Floyd, David Gilmour, que j'ai eu la chance de côtoyer aussi. Et c'est assez traumatisant quelque part, parce que quand on a été bercé avec des morceaux aussi forts que ça, d'un seul coup se retrouver devant les gars, on perd un peu les pédales finalement. On est impressionné, franchement, ouais. Et quand je l'écoute, maintenant, j'ai même eu maintenant la grande chance de pouvoir le jouer avec lui sur scène, ça me fait toujours quelque chose.
Vous lui avez raconté à Axel Bauer l'affection que vous avez eue pour cette chanson quand vous aviez 14 ans ?
Oui, oui, je lui ai dit, oui. Mais j'ai l'impression que c'est un discours qu'il a dû entendre assez souvent.
Parfois, certains chanteurs font un tel succès avec une chanson qu'il reste dans l'esprit des gens, les chanteurs d'une chanson.
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que c'était un petit peu ça avec Axel Bauer ?
Alors, je suis presque un peu mal placé maintenant, parce que j'ai suivi d'assez près ses dernières prestations, et notamment son dernier disque. Donc, je trouve qu'il a un énorme talent de composition, et on devrait connaître plus ses compositions à l'image de Cargo.
La détresse.
Est-ce que vous trouvez qu'elle a bien vieilli, cette chanson ?
Oui, effectivement, elle a très très bien vieilli. Ah oui, oui. Il y a toute une succession d'accords comme ça qui est assez inhabituelle à l'époque. On n'a pas l'habitude d'entendre ça et c'est pour ça qu'il y a quelque chose quand même de nouveau dans cette conception de morceaux de variété. Et il y avait aussi sa voix, il a une voix assez sensuelle, extrêmement douce, je trouve. Il y a quelque chose d'assez doux dans sa voix. Et puis ce morceau-là en particulier, il touche beaucoup de gens parce que c'est super bien foutu. Tout est bien dans ce morceau. Il est content là, s'il entend.
Cargo, Axel Bauer, c'était donc Frédéric, le choix du saxophoniste Pierrick Pedron.
Axel Bauer va être content, Pierrick Pedron qui sera en concert avec son quartet le 19 avril au Sunside à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
On parle insectes avec vous.
L'intelligence des insectes avec mon invité Mathieu Lureau.
A tout de suite.